Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, le Forum de la Presse. Le Forum de la Presse, le rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Au menu du Forum de la Presse de cette semaine, annulation partielle des élections locales dans 10 communes de la région de Dosso par le tribunal de la dite région le jeudi 21 janvier passé. Cette décision fait suite à une plainte déposée par certains partis politiques. Et puis participation et prestation du Niger au championnat d'Afrique des Nations CHAN qui se tient actuellement au Cameroun. Analyse à suivre sur la prestation de l'équipe du Niger qui a été éliminée à la première partie de la compétition. Enfin, volet sécurité, un autre crash d'un drone américain enregistré samedi 23 janvier 2021 à Tinwikirui, village situé dans la commune rurale d'Ingal, région d'Agadez. Pour discuter et analyser ces faits de l'actualité, nous avons invité nos confrères Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan, bonsoir.
Bonsoir.
Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Gare, bonsoir.
Bonsoir.
Et Hussein Issa, journaliste indépendant. Hussein, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de ce Forum de la Presse. Bienvenue à toutes et à tous dans le Forum de la Presse du studio Kalangou de ce vendredi 29 janvier 2021. Nous débutons ce forum par l'annulation partielle des élections locales dans 10 communes de la région de Dosso par le tribunal de Dosso. C'était le jeudi 21 janvier 2021 passé. Des communes de Dosso, Gorou Bankassam, Kargibongou, Tessa, Farey, Garankyadé, Douki, Matankari, Bobo et Harikanasu. Cette décision fait suite donc à une plainte déposée par certains partis politiques. D'après les dispositions du Code électoral, les partis en liste disposent d'un délai de 10 jours pour faire recours devant le Conseil d'État. Si la décision donc, d'annulation est maintenue, de nouvelles élections devront être organisées dans un délai de 100 jours dans les communes concernées, prévoit le Code électoral. Je commence tout de suite avec vous, Hassan Boukar. Comment vous analysez cette situation d'annulation partielle dans 10 communes de la région de Dosso?
Merci Alassane. Bon, je pense qu'au vu de toutes les réactions qu'on a entendues après la publication des résultats, pour moi, ce n'est pas étonnant. Il y avait beaucoup de réactions des partis politiques qui laissent croire que les élections ne sont pas forcément bien passées. Il y a eu donc des recours dans la région de Dosso. Mais j'ai cru comprendre qu'à Dosso, parmi les raisons qui ont amené justement le tribunal de grande instance de Dosso à prendre cette décision, je pense que parmi les recours, il y a en partie, je crois, la faute de la CENI elle-même, puisque j'ai cru comprendre qu'il y a des listes qui étaient annulées, mais dont les logos...
Dont les logos sont restés sur les listes.
Évidemment, ça déroute les électeurs. Parce que normalement, lorsqu'une formation politique a sa liste annulée, il ne doit pas faire partie des bulletins. Et donc, je crois qu'il y a des cas comme ça. Et je crois comprendre aussi que la crise qui vit le modèle parlement a dû s'inviter aussi dans ça. Puisque je crois comprendre que l'aile de Noma a dû déposer des dossiers dans certaines communes, puis à l'autre aile. Donc, finalement, il y a un certain nombre de raisons, je crois, comme celle-ci, parmi celles qui ont amené la justice à Dosso à annuler ces résultats. Bon, pour les électeurs de Dosso, ça devient quand même difficile. Il faut encore attendre 2 mois, reprendre le même exercice qui a été fait. Alors, j'ose espérer qu'au plan national, il n'y a pas beaucoup de cas comme ça, parce que s'il y a beaucoup de cas comme ça, ça devient quand même compliqué s'il faut reprendre carrément. Là, c'est presque une dizaine de circonscriptions, je crois.
De communes, oui.
À Dosso, c'est beaucoup. Bon, voilà quoi. Mais ça fait une opportunité pour les partis. Hein. Je pense que ceux qui ont dû être annulés, peut-être qu'ils auront l'occasion de mieux se préparer. C'est un autre scrutin qui s'organise, donc c'est peut-être une opportunité. Mais en tout cas, pour moi, c'est peut-être bien aussi que les gens arrivent à faire des recours. Il y a trop de critiques sur la justice, mais ça montre que lorsque vous arrivez à faire les recours, vous avez quand même, au moins c'est la chance,
avec des éléments
voilà,
de preuve.
Avec des preuves, vous avez peut-être la possibilité d'avoir gain de cause. Donc c'est pour ça qu'il est toujours conseillé de mettre à l'épreuve les tribunaux. C'est parfois facile de dire oui, la justice, elle est un feu de haut pouvoir, elle est corrompue, etc. Mais ce n'est pas forcément tous les juges, et c'est bien de faire des recours, et on finit par gagner. Et apparemment, à Dosso, ceux qui sont allés voir les juges ont fini par avoir gain de cause.
Houssaini Issa, en cas de maintien de cette décision des élections, il y a des recours que ces partis politiques peuvent faire pour 10 jours. En tout cas, ils ont 10 jours devant le Conseil d'État. Et si jamais cette décision de justice est maintenue, notamment ces annulations, ça veut dire que des élections devront être reprises dans ces localités. Que peut-on craindre à ce niveau?
Oui, mais Alassane, dans tous les cas, c'est le Conseil d'État qui va statuer en dernier ressort. Si ce qui a été dit par le juge du tribunal de Dosso, et le Conseil d'État confirme, il va falloir reprendre. Mais la problématique, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas que la région de Dosso qui est concernée, quelqu'un m'a parlé même d'une autre région, au niveau, je crois, Zende. Je n'ai pas pu confirmer ça.
Effectivement, on n'a pas pu aussi avoir la confirmation.
Voilà, je n'ai pas eu la confirmation. Je dis le problème qui va se poser, c'est le problème des ressources. Parce qu'il va falloir chercher des ressources pour pouvoir organiser les élections. Et qu'on dise que, bon, la CENI...
Si cela n'a pas été prévu.
Mais bien évidemment, déjà, s'il y a un problème sérieux qui est là de moyens, de financement des élections, au cas où le Conseil d'État venait à confirmer les décisions au niveau, comment dire, des tribunaux, les tribunaux locaux, il va falloir chercher de l'argent. Mais il va falloir aussi, pour les candidats, de chercher de l'argent pour aller battre campagne encore. Alors qu'ils ont dû mettre, investir tout ce qu'ils avaient pu économiser pendant des années, ça va être une perte de manche. Ça va être un peu compliqué, je me dis, mais dans tous les cas, c'est la loi qui prévoit ça ainsi. On va attendre de voir ce qui va être décidé au niveau du Conseil d'État, parce que comme vous le dites, le tribunal, la première juridiction a dit, comment dirais-je, a donné sa décision.
Et c'était sur la base aussi des recours que ça.
Des recours, bien évidemment, c'est sur la base des recours. Maintenant, si les candidats ou les partis qui se sentent concernés par ce régime-là, ou l'annulation. Bien évidemment, s'ils décident d'aller vers le Conseil d'État, ce qui est sûr, c'est que de part et d'autre, ça va entraîner des coûts supplémentaires.
Alors, merci. Gary Amadou, est-ce que la CENI a les moyens d'organiser des élections de ce genre, de reprendre des élections municipales et régionales dans ces zones, alors que nous sommes encore dans la période de l'élection présidentielle dont le deuxième tour est dans un mois?
Oui, mais j'ose espérer que la CENI a les moyens. Pour ce qui est de la compétence, je n'en doute pas. La CENI a la compétence pour les réorganiser. Et j'ose espérer que dans le budget prévisionnel de la CENI, on a pris en compte tous ces paramètres-là. Le paramètre éventuel d'annulation d'élections et de reprise des élections. C'est-à-dire que
ça soit fait, municipal
oui,
ou
un budget. Le budget a été... Je pense que le budget a été maximalisé pour faire face à tous ces cas éventuels de reprise d'élection. J'espère. Si ce n'est pas le cas, comme l'a dit Houssaini, il faut chercher de l'argent pour organiser ces élections. Parce que c'est une obligation pour l'électeur. Parce que quand même, c'est des élections au niveau régional et local. Il faut les reprendre. C'est important. On a dit ici sur ce plateau, ce sont les élections pratiquement les plus importantes en réalité. Les gens ne se rendent pas compte. Donc, il faut les reprendre. Et je pense que l'État va se donner les moyens de les faire et dans les délais. Vous comprenez? Donc, la particularité de ces élections-là, c'est qu'elles n'empiètent pas sur les élections présidentielles. Et voilà, et législatives. Il n'y a pratiquement pas de lien. Vous comprenez? Donc,
un des antécédents qu'on a vu, c'est le cas d'un parlementaire qui est décédé pendant la législature
passée.
Dans la
région de Maradi.
Pour lequel il fallait reprendre les élections. Finalement, on n'a jamais organisé ces élections, faute de moyens.
Ça c'était par le dans l'ancienne législature. Je suis d'accord, mais je pense que cette nouvelle CENI a pris en compte tous ces défauts là qui ont été constatés, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre en tout cas les moyens à son niveau et faire en sorte que des épisodes comme ça qu'on a constatés ne puissent plus se répéter. J'ai dit, je l'espère, mais j'ai dit quand même quelque part, c'est un nouveau challenge pour les partis politiques. Parce que pratiquement, qu'on a dit, c'est une nouvelle campagne. C'est-à-dire que là, il faut qu'on fasse rebelote. Il faut que les gens partent sur le terrain, au niveau des localités dans lesquelles on va reprendre ces élections-là. Il faut que les gens partent sur le terrain. Il faut que les gens puissent encore convaincre. Et il faut peut-être que ceux qui ne sont pas sur les listes et qui ont reçu des votes, parce que c'est ça l'anomalie. Vous savez, les gens, dans la campagne, on vous dit que bon, telle liste est invalidée. Il n'est pas évident que l'information
soit passée
au niveau des villages. Donc, quand ils voient la liste, eh bien, eux, ils voient le logo de leur parti, eh bien, ils votent. Ce qui fait que des partis qui ont été éliminés ont eu des voix.
Des voix.
Certains même disent qu'il y a des partis qui ne devaient pas compétir et qui ont eu des conseillers. Mais donc, ça ouvre la voie à de nouvelles alliances. Mmh. C'est-à-dire que ce parti-là qui ne doit pas compétir aujourd'hui, il va faire l'objet de sollicitations. C'est
auprès
évident.
De ceux qui,
ah non, mais.
Ceux qui,
mais écoutez, on va aller sur le terrain électoral. Ce parti-là ne doit pas avoir des. Maintenant, il va être l'objet de sollicitudes. En tout cas, il va être sollicité par les partis politiques qui vont compétir pour qu'ils donnent des consignes à ses militants pour qu'ils puissent verser ses voix à ce parti politique-là. Donc, il y a beaucoup d'enjeux dans la République des élections-là.
Oui. Alors, nous passons à un autre sujet. Le MENA national, l'équipe de foot du Niger, a pris part au championnat d'Afrique des Nations. Cameroun 2021, le CHAN, un championnat qui est disputé uniquement par les joueurs locaux des pays participants. La prestation de l'équipe du Niger s'est soldée par 2 matchs nuls et une défaite fatale face à la République démocratique du Congo sur le score de 2-1. Gary Amadou, comment analysez-vous cette défaite du MENA à prime au CHAN Cameroun 2021?
Oui, j'ai suivi la prestation de l'équipe nationale dirigée franchement par un entraîneur qui mérite beaucoup le respect.
Harun Abdullah,
un entraîneur qui, pour moi, est négligé face aux entraîneurs expatriés. J'estime que c'est le meilleur entraîneur que le Niger ait eu depuis longtemps. Et cette équipe-là, que Harun Abdullah est en train de diriger, pour moi, c'est la meilleure équipe de MENA. J'ai vu le football qu'ils ont déroulé lors de cette CHAN-là. C'était à la hauteur. Rien que le dernier match. Quand vous avez vu le but d'anthologie que Issa Moussi a marqué, le but de la tête, vous savez qu'on a une équipe. Et en plus, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a un buteur. On a un attaquant qui marque des buts. Qui a marqué 2 buts lors de cette compétition-là. L'erreur du gardien, j'ai vu les gens en train de supputer. Ah oui, le gardien a trahi. Non. J'ai dit, attendez. D'abord, le gardien est victime peut-être par un manque d'expérience. Ensuite, dans l'action là, il faut savoir que le gardien ne pouvait pas prendre la balle. Il ne pouvait pas prendre la balle. Il fallait qu'il dribble quelqu'un et il tire. Et il y avait une faute sur le gardien. L'arbitre n'a pas sifflé. Et pendant le match, il y avait une faute, un pénalty qui devait être accordé au Niger. L'arbitre n'a pas. Donc, et je trouve qu'accabler le gardien n'est pas.
Alors pour vous, les causes sont où? Où est-ce qu'on peut. Comment situez-vous les responsabilités?
Non, les responsabilités pour moi. Le staff technique du MENA, moi, je n'ai rien à lui reprocher. Peut-être qu'il y a des réaménagements à faire. Mais pour moi, l'équipe que j'ai vue là, à la chaîne là, franchement, c'est l'une des plus belles équipes du MENA que j'ai jamais vue. Le football qu'ils ont déployé, qu'ils ont déroulé sur le terrain là, c'était un football de très bonne facture. Tout le monde l'a vu. Et une seule défaite par un coup de malchance. Parce que l'équipe du Congo était prenable, les léopards, ils étaient prenables. Mais le MENA les a dominés. Nuit était certains appellent ça la bourde. Moi, j'appelle ça l'erreur du gardien. N'est-ce pas? Le MENA aurait gagné cette équipe-là. Tout le monde sentait que le MENA dominait les Congolais. Vraiment. Maintenant, le MENA est éliminé. Il ne s'agit pas d'accabler les joueurs. Il ne s'agit pas d'accabler le gardien.
L'entraîneur.
Oui. Harun Abdullah, quand même. Si on fait le palmarès de tous les entraîneurs qui ont pris les équipes nationales, aussi bien celle qui est l'équipe des locaux et l'équipe senior là, mais quand on fait le palmarès, Harun Abdullah pratiquement est celui qui a le plus gros palmarès. Il est celui qui a le plus gros palmarès. Et c'est pourquoi j'ai dit, moi je fais un plaidoyer pour que Harun Abdullah, vraiment, cette équipe de CHAN là, s'il va être, qu'il soit maintenu, ou bien même, que Harun Abdullah dirige l'équipe nationale du Niger.
Alors,
il a les compétences.
Dans votre intervention tout à l'heure, vous avez cité quelques éléments qui laissent croire qu'il y a eu quelques problèmes aussi au niveau de l'arbitrage.
Ah oui, l'arbitrage, vous savez, le football, il est ce qu'il est, aussi bien sur le plan africain que sur le plan international. Malheureusement, on a l'impression qu'il y a une sorte de climat ou une sorte de tendance à vouloir favoriser les favoris. au niveau de la FIFA, ça, c'est pratiquement une sorte de doctrine. Il faut faire en sorte que les favoris arrivent au deuxième tour parce que en ce moment, les gens vont partir au stade. Parfois, c'est des calculs purement pécuniaires qui se font. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on élimine les équipes favorites, c'est pas évident que le championnat soit enfin
qu'il y ait de l'engouement autour.
Qu'il y ait de l'engouement. Mais il y a un problème, c'est que les grandes équipes se donnent les moyens, souvent parfois avec la corruption des arbitres, avec parfois des personnalités qu'ils ont au niveau des instances de la CAF pour se faire favoriser. Parce que je vous dis, l'arbitre, moi j'ai trouvé sa prestation assez lamentable. Refuser un penalty et puis une faute sur un gardien dans la surface de réparation que tu laisses passer et qui occasionne un but. Moi je me dis, il y a au moins sur le VAR, on peut partir regarder les caméras.
La vidéo.
Oui, parce que les Nigériens ont protesté, mais il faut partir regarder, c'est la moindre des choses. Non, on fait comme si... Bon, comme c'est le pays le plus pauvre du monde, il n'y a pas de problème. Non, c'est le Congo, c'est un pays puissant, voilà. Le Niger est éliminé. Et puis, on dort sur ça. Donc, vraiment, je dis... Et moi, je n'accable pas le MENA. L'équipe-là est une très bonne équipe. Il faut la consolider. Il y a peut-être des réaménagements à faire, mais vraiment, c'est la meilleure équipe nationale qu'on ait eue depuis longtemps.
Bien. Nous passons à vous, Hassan Boukar. Quelle est, vous, votre appréciation?
Moi, j'ai suivi le match du MENA contre la Libye sur leur premier match. J'ai trouvé quand même une équipe de MENA qui était bien. Moi, je les ai bien appréciés. Au début du match, tous les commentateurs laissaient dire que la Libye est une grande équipe. Ça fait quelques temps, ils n'ont pas eu l'occasion de jouer, mais que c'était une grande équipe. Finalement, ils étaient les favoris.
Parce qu'ils ont une fois gagné, je crois, bon. Remporté.
J'ai vu une équipe du MENA qui a bien joué. Ils n'ont pas eu la chance de concrétiser, d'avoir une victoire. Ils auraient pu l'avoir, le premier match. Ils ne l'ont pas eu. Mais au fond, je me dis, je pense qu'on a aussi en face des équipes qui sont habituées aux grandes compétitions. Cette équipe-là, elle est relativement jeune, selon ce que j'ai pu voir. Il faut qu'elle arrive à avoir l'habitude d'aller à ces compétitions, à se frotter aux grandes équipes, à être un peu plus sûr d'eux, avoir plus d'expérience. À mon avis, ça leur permet de bien jouer. Par exemple, si je juge par ce match contre la Libye, au début, il était un peu, il avait du mal à entrer dans le match, mais ils ont fini par se dire, il faut qu'ils se battent, et ils ont finalement pris le dessus quelquefois sur leurs adversaires. Donc, je pense que c'est une équipe qui a encore besoin.
Voilà. La domination, c'était 80% de possession de balle pour les Nigériens contre 75% pour les Libyens.
Donc, il faut quand même qu'il arrive à continuer à garder le cap. Maintenant, je comprends, j'ai entendu comme Gary l'a évoqué, mais il y a eu beaucoup de critiques contre
à l'intention des joueurs.
Certains disent le gardien, d'autres disent le staff technique et tout ça. Je considère que c'est les critiques d'un public dessus. Apparemment, comparé aux éditions passées, le MENA a pu faire des meilleures performances.
Oui, parce que là, on dit que le Niger s'en sort avec deux buts, contrairement à sa dernière participation au Rwanda 2016 où c'était réduit.
Bon, donc j'ai l'impression que c'est quand même un public, le public nigérien est très attaché au football. Donc, les gens sont peut-être un peu dessus. Donc, je comprends un peu.
Il y a les attentes étaient dessus.
Voilà, un peu d'émotion, un peu de réaction de ce type. Donc, je comprends
vous
ça.
Vous ne trouvez pas ces arguments avancés tenables?
Je pense qu'on est en football. Chacun a sa façon de voir un match. Par exemple, moi, je peux être d'accord avec Gary sur l'entraîneur. Son seul défaut, c'est d'être nigérien. Ouais. C'est-à-dire, il est national. Ailleurs, les pays mettent énormément de sous pour aller chercher quelqu'un qui a une renommée internationale. Mais là, tout le monde le voit. C'est le Dunda d'à côté, des Telkati, on le voit. Donc, peut-être que les gens ne lui font pas confiance. Mais c'est quand même lui qui nous a amené à la CAN pour la première fois, à mon avis. Hein. Donc, c'est quand même quelqu'un. Il a aussi la chance de connaître ces joueurs-là. Il les voit jeunes, évoluer. Donc, c'est vraiment... pour moi, une bonne personne pour encadrer cette équipe-là.
Gary pense qu'on ne lui fait pas suffisamment confiance. Il est défavorisé par rapport à des entraîneurs expatriés.
C'est peut-être risqué de juger un entraîneur par une seule compétition. J'ai vu des équipes favorites arriver à la Coupe du Monde et qui n'ont même pas dépassé les tout premières épreuves. Donc, ça peut arriver. Peut-être qu'il ne faut pas tout de suite dire ouais, il n'a pas joué son rôle, tout ça. C'est vrai que quand un match ne marche pas, il y a certainement une responsabilité. Il y a une lecture qu'il faut faire. Il faut se dire.
Et ça, c'est pour améliorer, mais pas pour sanctionner.
C'est pour améliorer. Donc, à mon avis, il faut encourager ces joueurs-là. Il faut... Et puis, hein, on se regardait un pays comme la RDC. Ils ont beau être ceux qui sont aujourd'hui. j'ai l'impression quand même qu'ils ont un meilleur championnat national. Hein, mm-hmm. Parce que dans les pays où vous avez un bon championnat national, mm-hmm. c'est de là qu'émergent les bonnes équipes. L'Égypte, la Tunisie, ce n'est pas par hasard qu'ils ont des très bonnes équipes. C'est qu'il y a un championnat national qui fait qu'ils jouent du haut niveau dans leur pays mm-hmm. déjà. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on a la possibilité de sélectionner de bons joueurs et de former une bonne équipe. Je n'ai pas l'impression que chez nous, notre championnat national soit vraiment...
Il y a les questions aussi de mise en confiance et de mise dans les conditions des joueurs, pour moi, les sponsoring et autres.
Pour que les joueurs aient confiance en eux, il faut absolument qu'ils puissent aller se frotter aux autres. Il faut qu'ils continuent à aller dans les compétitions. Et c'est comme ça. Pourquoi ceux qui partent en Europe, quand ils reviennent, ils sont meilleurs? C'est parce qu'ils partent se confronter à meilleurs qu'eux. Ils sont dans des grands championnats, ils jouent des grands matchs, etc.
Là, donc, la particularité, c'est que la plupart, sinon la majorité, sont des joueurs locaux.
Voilà. Là, pour le CHAN, c'est peut-être une bonne compétition, à mon avis, hein, lorsqu'on on donne l'occasion aux joueurs locaux de se faire connaître, d'aller se confronter, etc., etc. Sinon, si vous confrontez l'équipe du Niger à celle du Sénégal, qui a toute une variété de joueurs dans les grands championnats, etc., c'est pas le même match. Mais là, ce sont les locaux qui s'affrontent. Et donc, je pense que ça donne presque la même chance à tout le monde. Mais évidemment, ceux qui ont déjà un bon championnat national prennent de l'avance sur les autres et c'est tout à fait normal. Donc, moi, pour moi, il faut tirer les leçons, mais faire en sorte qu'on continue à aller à ces grandes compétitions, aller nous confronter les autres équipes. Et je pense que c'est comme ça qu'on forge aussi l'expérience, le savoir-faire, et c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant.
Oussainissa,
je commence par dire, par rapport au staff technique, Arundola, c'est un ami de jeunesse. Je le connais personnellement très bien. Je pense qu'il a effectivement très bien coaché cette équipe-là, parce que tous ceux qui ont pu suivre les différents matchs du MENA ont constaté qu'il n'y avait pas de complexe chez les joueurs nigériens. FDC Congo, c'est quand même une équipe de renom. Quand ils sont en face, ils prennent karma, comme on avait dit, ils sont karma, c'est nous qui menons en fait le jeu. Ils sont obligés de courir après nous, n'est-ce pas?
On a la domination du...
en termes de possession, même de technicité. Ça dénote une chose, c'est que Haroun Abdoullah, c'est un entraîneur de haut rang. On ne doit pas le blâmer à cause de ce qui s'est passé le dernier match, où bon, lui-même a reconnu que le gardien, parce qu'il n'a pas dégagé immédiatement dans ces 6 mètres, il pouvait le faire immédiatement pour évacuer ces 6 mètres, parce qu'un gardien, surtout à un moment décisif, à quelques minutes, à une minute environ
de la fin,
on n'a pas...
Pas de prise de risque.
Il n'y a pas de prise de risque, vous dégagez. Par n'importe quel moyen, il faut faire partir le ballon. Malheureusement, il ne l'a pas fait, il a pensé pouvoir dribbler, le joueur est venu, par derrière, et puis... Le tir qu'il a voulu faire n'a pas pu aller loin, c'est tombé dans les pieds d'un autre joueur adverse et qui n'a pas eu beaucoup de peine pour placer le ballon dans les filets. Maintenant, peut-être moi, ce que je peux suggérer, parce que quand on voit un peu sur le plan de la domination, dans tous les matchs que le Niger a eu à jouer, il n'y a pas eu de complexe, mais c'est la finalisation. C'est-à-dire, au niveau de l'attaque, on n'a pas souvent des gens qui sont percutants, contrairement aux autres équipes. Il faut bien travailler cet aspect-là. C'est-à-dire, au niveau de la défense, ça a bien tenu.
La concrétisation, quand... comme dit les...
Oui, mais c'est ça le plus important, parce que c'est le but qui compte.
On peut bien dominer un match, oui, mais si on n'arrive pas à marquer...
C'est ça souvent qui fait mal au public. Parce que vous avez dominé de bout en bout le match à la dernière minute. À travers une simple occasion, une seule occasion, l'adversaire vous marque un but. On considère que c'est l'adversaire qui a gagné, ce n'est pas vous, quel que soit... Le temps de conservation du ballon et tout, la technicité et tout, il faut travailler sur cet aspect-là. Vraiment. Sinon, c'est une bonne équipe que j'ai vue. En tout cas, j'ai suivi tous les matchs. Et je suis d'accord, c'est une équipe sans complexe. Parce que le plus souvent, on a affaire à des équipes qui sont complexées. Dès qu'ils entendent le nom de l'adversaire, déjà, ils ont peur, ils se disent qu'ils n'ont pas développé de complexe. Ils ont joué. Ils étaient face à des joueurs qui sont talentueux, mais ils ne se sont pas laissés dominer. Moi, je pense que c'est important. Il faut mettre l'accent, il faut travailler cette équipe-là. Ça peut aller très loin.
Mais fondamentalement...
Et il faut aussi donner vraiment mettre l'accent, parce qu'il a l'habitude de me raconter à l'époque, quand il était avec Mena, ce qu'on paye aux entraîneurs qui sont allés, qu'on recrute, il a l'habitude de me trouver, j'étais au Républicain à l'époque. Ce qu'on donne, on prend une villa, ceci, cela. Lui, en tant qu'enseignant au niveau de, comment on appelle, donc, pas du MENA, pas fini foot ici. Ici,
on y va.
ici, l'INGS, on fait appel à lui, il vient, il prend l'équipe, il lève l'équipe. Et après, on fait venir quelqu'un.
Pour continuer. Lui,
pratiquement. Ça, moi, je dis, ce n'est pas des choses à encourager. Parce que le blanc qu'on va faire venir, il ne connaît pas l'environnement, il ne connaît pas les joueurs. Il va venir, il va prendre ses millions par mois, il va avoir une villa, il va avoir la domesticité et tout, pour quels résultats ? Quand on a des entraîneurs compétents comme ça, il faut les mettre dans les conditions pour qu'ils se donnent davantage. Je pense que c'est important. Il y avait une époque, et un autre là, comment il s'appelle j'ai oublié un Touareg là. J'ai oublié son nom. Un métis, quelque chose comme ça là. Lui, je ne sais pas ce qu'il devient. Lui aussi était très bon. Je ne sais pas ce qu'il devient aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut miser d'abord sur les locaux. C'est plus important. On a vu ce qu'ils ont produit comme
match. Que ça soit en termes de coaching.
Que ça soit en termes de coaching comme en termes de joueurs. Parce que quand les gens se connaissent, ils jouent mieux. Mais quand on fait venir d'autres personnes, souvent, qui viennent d'autres clubs à l'extérieur du pays, dans des pays, dans des grands clubs. Mais quand ils viennent, souvent, ils se disent, bon, j'ai pas besoin de me blesser parce que qu'est-ce qu'on va me donner ? C'est-à-dire, on ne voit pas la couleur, le drapeau. Oui, le drapeau qu'on défend, la couleur du pays qu'on défend, souvent, c'est ça qui pénalise où les gens. Bon, ils préfèrent ne pas vouloir se dépenser beaucoup parce que le club est là qui attend.
Donc, pour vous, il faut mettre l'accent, en tout cas...
Personnellement, je pense qu'à partir de ce qu'on a vu ici et dans le cadre de cette compétition-là, je pense qu'il faut mettre l'accent sur les locaux et les mettre dans les conditions pour qu'ils puissent produire davantage, donner beaucoup plus, comme on veut dire, ce qu'ils ont dans les tripes et pouvoir accéder à un niveau. Parce que moi, quand je prends autour des années 80, je me rappelle bien, on avait l'une des meilleures équipes en cas dans la sous-région, avec les Djagoundi, les Lawandidi, les Acha, c'était sans grand moyen. On a eu à se frotter à l'Algérie avec les Rabat Majer à l'époque. On n'a pas eu ce problème. Oui,
les
il faut faire
les
ça.
Les bons vieux temps.
Oui, bien évidemment. Mais non, mais c'est important. Ces gens, ils sont là encore. Ils sont capables d'intervenir. Bon, ils sont peut-être vieux, mais ils sont toujours en mesure de soutenir ou d'accompagner.
Est-ce que Ousseini, vous avez décelé des points d'amélioration pour les joueurs?
Oui, je viens de le dire tout à l'heure. Ce que je viens de dire, j'ai dit que point d'amélioration, c'est un...
Mais c'est vrai que vous avez parlé de cette question de concrétisation.
Mais bien sûr, non, c'est pas qu'ils ont dominé. Mais le problème, c'est la finalisation. Regarde les occasions qu'on a eues à l'occasion des 3 matchs. Les occasions, c'est des occasions France, mais c'est souvent au moment du tir où
il y a un problème.
Et c'est important, il faut travailler sur cet aspect-là. Il faut travailler. Mais l'autre aspect positif, c'est qu'il n'y a plus de complexe. Il n'y a pas de complexe, parce qu'à l'époque, souvent, c'est le complexe qui fait que...
Déjà.
Parce que vous vous dites d'emblée que celui en face de qui je suis, il est meilleur que moi.
Et déjà,
d'abord, mentalement, vous ne pouvez plus jouer. Parce que vous vous dites que c'est fini. Je n'ai aucune chance de pouvoir. Je peux tout au plus garantir un match nul, mais je ne vais même pas chercher à marquer parce que ce ne serait pas possible.
Bien. Gare, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on continue?
Oui, ce que je voulais dire, c'est que cette équipe-là, et il faut la consolider parce que c'est l'équipe la plus offensive qu'on ait jamais eue.
Par rapport au MENA.
Le principal reproche qu'on fait au football nigérien, c'est que sur le terrain, c'est bruyant. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire 2-3 passes sans qu'il ne perde la balle. Mais là, on a vu une équipe qui fait un jeu, franchement, à l'européenne avec des passes et qui est offensive. La série sur le gâteau, c'est que on a cette fois-ci un buteur, un attaquant qui marque des buts. Vous voyez, d'habitude, quand on va à l'extérieur, on ne fait rien. Pratiquement, on ne fait qu'encaisser. Mais là, on a une équipe avec un buteur, mais le numéro 10 aussi. Donc, cette équipe-là, renforcée là. Moi, je veux qu'on les accueille quand ils vont revenir. Qu'on les accueille à l'aéroport. Qu'on les encourage. Au lieu qu'on les laisse venir en catimini ou en rasant les murs. Non.
Parce que ça veut dire que la prochaine fois qu'on doit disputer un autre match, ils ne sont plus partants.
Mais bien sûr. Concernant la prestation du gardien, vous savez, pour dégager une balle, il faut d'abord avoir de l'espace. Un gardien ne dribble pas pour être apprécié. Non. Si vous avez remarqué l'action là, dans la surface de réparation, il y avait pratiquement tous les joueurs congolais qui étaient dans la surface autour de réparation. Mais tu ne peux pas tirer sur un joueur congolais pour que la balle revienne. Il a fait ce que tout joueur aurait fait, et il a dribblé un et il voulait tirer. Vraiment, il ne faut pas qu'on l'accable, ce pauvre gardien. Ouais. C'est un bon gardien qui a sauvé beaucoup de balles. Ce n'est pas la peine que les gens s'attardent. J'ai vu sur les réseaux sociaux des attaques contre le pauvre gars. Et les gens ont dit non, il faut qu'on le lèche. Ils ont dit des tas de choses.
Il y a quand même cette habitude chez nous, les Nigériens, que quand on a une défaite...
C'est une attitude normale. C'est une attitude normale pour un supporter. C'est-à-dire, comme on dit à Samboka, quand on perd un match, il faut trouver un coupable. Alors, si ce ne sont pas les joueurs, c'est l'entraîneur. Souvent, c'est l'entraîneur qui est le premier coupable. Vous avez vu en plein championnat, par exemple en Angleterre, en plein championnat, on change d'entraîneur. En France, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais c'est en plein championnat qu'on l'a changé. Et on a viré Frank Lampard. Et l'équipe de Frank Lampard l'a recruté, l'entraîneur de Paris Saint-Germain. Donc c'est un jeu que les gens... Bien. L'entraîneur est le coupable idéal quand il y a un match. Mais je me dis, parfois, on fait des mauvaises appréciations.
Alors, voilà. Garé, nous allons poursuivre sur le dernier sujet de ce forum de la presse. C'est la chute d'un autre drone américain samedi 23 janvier 2021 à Tinwirkiwi, village situé dans la commune rurale d'Ingel, donc c'est dans la région d'Agadez. Selon des ressortissants de la zone, la région d'Agadez compte à ce jour au moins 3 crashs de drones américains qui, pour la plupart, sont armés. Pour rappel, les Américains disposent d'une base de drones dans la région, notamment la base aérienne 201 plutôt. Alors, Hassan Boukar, comment comprendre ces chutes de drones armés américains dans cette région?
Alors, je pense que c'est les conséquences des choix quand même qu'on a fait dans ce pays. On a fait le choix d'abriter ces bases-là. Les accidents, ça peut arriver dès lors que vous avez des bases où vous avez ces drones. Ce n'est pas arrivé ici, hein, c'est arrivé ailleurs. Hein. Je pense que j'ai lu des articles qui montrent que de 2000 à aujourd'hui, c'est une vingtaine d'années, il y a plusieurs centaines de crashs de drones. D'autres, j'ai vu des chiffres de 350, 400 crashs de drones. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des drones qui s'écrasent. Et donc on a à la fois la base qui est ici à Niamey des Français, la base des Américains. Ouais. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Bon, là, ce qui les relève, c'est que c'est quand même des drones qui sont armés, qui crachent. Pour ce cas-là, j'ai cru comprendre que c'est dans une zone de pâturage qui s'est tombé dans la zone de Ingal. Mmh. C'est des risques qui sont liés au fait qu'on a choisi quand même d'abriter ces bases-là, officiellement pour lutter contre le terrorisme. Ces drones sont là. Les Nigériens, on connaît à peu près ce qu'ils pensent de leur présence, puisque globalement, en tout cas l'idée générale dans ce pays est que leur présence n'a pas changé grand-chose, ça n'a pas permis à ce pays d'être à l'abri des attaques. Mm. En tout cas, les conséquences sont là. Maintenant, les drones, la façon dont ça opère, vous avez aussi beaucoup d'accidents, là c'est quand ça s'écrase. Ils peuvent aussi se tromper des cibles. Hein. Parfois, ça attaque. On a vu beaucoup de cas en Afghanistan où les populations civiles peuvent faire les frais des attaques qui sont opérées par des drones.
Au Mali, actuellement, il y a une polémique aussi.
Une cérémonie, tout ça là, où on accuse l'armée française. Donc, malheureusement, des choses
Les uns disent avoir bombardé des djihadistes et les autres disent que ce sont des populations civiles.
Qui sont réunis à une cérémonie. Donc, malheureusement, là où ces drones sont là, c'est comme les accidents d'avion de ligne. Hein. Dès lors que vous avez une base, malheureusement, ça arrive. Bon, mais la présence de ces drones, ça pose aussi. Ce n'est pas simplement lorsqu'un drone s'écrase, ça pose aussi d'autres questions liées aux stratégies géopolitiques dans la sous-région. À un moment, j'ai cru comprendre que les Américains utilisaient leurs drones pour aller faire des opérations en Libye, Bon, ça pose, à mon avis, du point de vue de la sécurité, beaucoup de questions, ça a beaucoup d'enjeux. Quand ça s'écrase, ça fait un peu de débat dans l'espace public, mais à mon avis, les Nigériens doivent réfléchir davantage pour dire lorsqu'on autorise des puissances étrangères à avoir ces bases sur notre territoire, quel est l'encadrement que nous faisons pour que ce ne soit pas un État dans l'État, quoi. Donc, à mon avis, il y a tout un débat à faire sur cette question-là.
Comment prévenir, en tout cas, ce genre d'éventualité et...
Mais alors, comment prévenir? Alors, si on dit que c'est un accident, c'est que c'est un accident. Un accident,
ça on parle arriver. De pour le dernier cas, on parle d'atterrissage d'urgence.
Voilà, c'est ça. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils ont peut-être pu atterrir sans, au lieu de s'écraser. Mais si c'est un accident, je ne sais pas si on peut le prévenir. C'est des choses malheureusement qui vont arriver. Bon, on suppose qu'un accident, ce n'est pas volontaire, mais il peut toujours avoir des conséquences parce que là, c'est quand même des zones habitées et tout ça. Donc, malheureusement, comment on peut les prévenir? Je ne saurais vraiment répondre en réalité.
Bien. Houssein Issa, alors, ce drone, cette chute ou cet atterrissage d'urgence du drone américain de la région de Dagadez, notamment vers Ingal. Et comme pour rappeler aux Nigériens qu'il y a des drones qui circulent dans le ciel.
Oui, mais alors, ce n'est pas la première fois. C'est au moins ça, le troisième drone américain qui s'est créé, je crois. Le quatrième.
En tout cas, trois ou quatre dans la région.
D'accord. Et qui sont là, qui survolent. On sait bien, initialement, quand ces bases étrangères, on a décidé de leur installation dans ces pays, c'était de nous dire que ça va nous permettre de sécuriser un peu les frontières. En termes de renseignements,
notamment avec la Libye.
Avec la Libye, mais pas seulement la Libye, y compris la bande nord, l'Ibérie, toute la bande, y compris, moi je dis, dans la région bande sud jusqu'à Diffa, machin, où Boko Haram sévit. Mais depuis que ces bases sont là, on n'a pas tellement vu grand-chose hein, en termes de prévention. Alors que c'était ça, ce qui a été annoncé. Malheureusement, ça n'a pas... En tout cas, les gens ont le sentiment qu'ils sont là pour autre chose. Ils ne sont pas là véritablement pour nous défendre. C'est le sentiment, y compris pas seulement les drones, mais même les hélicos de guerre et autres. On n'a pas tellement l'impression qu'ils sont là pour nous défendre. Maintenant, on ne peut pas prévenir, d'autant plus qu'on ne contrôle rien. C'est les Américains qui contrôlent leur affaire. Comment peut-on prévenir, demander comment on peut prévenir? C'est à eux de savoir comment prévenir.
Hassan Boukhara avait évoqué tout à l'heure que les Nigériens devront peut-être penser à comment encadrer, comment est-ce qu'on encadre.
Oui, est-ce qu'on peut les encadrer? Comment? En quoi faisant? Est-ce qu'on a une influence sur ces armées-là?
On ne peut pas. C'est quand même le Niger qui a autorisé, qui les a autorisés à exercer.
Alors, c'est les activités qu'ils mènent là. Imagine les activités qu'ils mènent. Peut-être qu'ils ont un peu de communication avec les soldats nigériens et autres, mais je n'ai pas l'impression ou je n'ai pas le sentiment qu'il y a une collaboration franche entre ces forces qui sont là dans notre pays et nos soldats. Je n'ai pas l'impression, parce que sinon, on n'allait pas assister à tous ces drames-là qu'on vit avec, pendant qu'il y a des moyens sophistiqués qui peuvent décoller, aller en tout cas intercepter l'ennemi, le détruire.
On a raté un débat à l'Assemblée nationale pour dire dans quelle mesure on autorise des bases et quels sont les garde-fous qu'on prend, parce que c'est quand même ça se passe sur notre territoire, pour dire quelle est la limite des libertés qu'on leur donne. Ça aurait pu se passer à l'Assemblée, mais là, ça n'a pas été fait.
Ça veut dire que tout ce qui se passe, par exemple, la dernière fois, ce qui s'est passé à Zarundari
dans la région de Tillaberi.
Pendant combien de temps on vient, on tue 100 personnes avec tout ce qu'il y a comme moyen militaire, même dans la zone de Wala, qu'on dise que cette opération puisse se faire sans qu'on puisse neutraliser. Moi, je ne dis pas qu'on peut mettre fin définitivement à ces attaques, mais on ne peut pas permettre à l'assaillant de pouvoir fuir.
De venir commettre et partir sans être intercepté. Garé Madou, par rapport à ces drones.
D'abord, ce n'est pas un crash.
On parle d'atterrissage.
Sur les images, on voit bien qu'il est intact avec le missile qu'il a.
Pour les autres, c'était des crashs.
Le problème, c'est qu'il a un missile. Et moi, je n'ai pas eu vent d'une frappe de drone américain contre les terroristes. Alors, ce qui fait qu'il faut revoir vraiment la stratégie. Est-ce qu'il y a des autorisations de frappe à donner? Dans quelles conditions? Parce que contrairement à ce que l'on peut penser, même si ça n'a pas passé au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que quand les drones ont été déployés sur le sol national, ils n'avaient pas le droit de frappe. Donc le gouvernement a bien pris soin de ne pas le donner. Parce que justement,
mais ça a été rappelé fait à un moment donné, on parfois, avait les drones... Excusez-moi, Garé. à un moment, ces drones ont juste été autorisés pour survoler et pour la surveillance.
Pour la surveillance.
Mais après, maintenant, il y a eu un moment aussi où le gouvernement avait annoncé, ces gens ont annoncé qu'ils ont l'autorisation d'armer les drones.
Les Américains, après l'attaque de Tongo Tongo, ont demandé à ce qu'on leur donne l'autorisation de frappe. Ouais. Et je crois que pour le moment, ils n'ont pas encore fait de frappe. Parce que les Américains se méfient aujourd'hui des frappes au vu des conséquences de ce qui se passe en Afghanistan, où parfois on fait des raids et ça tombe sur des civils. Maintenant, il faut revoir cette stratégie-là pour voir dans quelle mesure est-ce que les Américains peuvent être autorisés. Est-ce qu'ils ont eu l'autorisation ou pas? Je ne sais pas.
Dès l'instant ce que je sais,
dans le cadre de la lutte contre les terroristes, en tout cas, il y a une collaboration étroite entre les forces armées américaines et les forces armées françaises. J'en veux pour preuve la neutralisation du patron d'Acmi, Abdelmarek Doukdel, n'est-ce pas, à la lisière de la frontière algérienne, alors qu'il était venu au Mali et puis il retournait. C'était grâce aux Américains, les renseignements donnés par les Américains. Donc, et beaucoup d'opérations, et lors de l'opération de Tongo Tongo, les Américains ont participé à exfiltrer les soldats nigériens et américains qui étaient rescapés. Donc, il y a une collaboration peut-être qu'il faudrait renforcer. Vous comprenez? Et comme l'a dit Ousseini, ce qui s'est passé au niveau de Tchoumabongo et Zarumdare, ça a fâché beaucoup de Nigériens. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, il y a les drones américains, les drones français. Comment se fait-il? Ils vous disent que non, le déploiement d'un drone, ça coûte beaucoup cher.
Il y a l'interdiction aussi de circulation de motos dans toute cette bande.
Ils vous disent que non, on ne peut pas déployer un drone 24 heures sur 24. J'ai dit d'accord, mais quand il y a une action terroriste qui a lieu, on peut quand même faire décoller un drone pour partir dans la zone à aider les troupes nigériennes dans le cadre des poursuites. Donc vraiment, il y a des choses à revoir dans le cadre des relations entre les forces nigériennes et les forces étrangères.
Bien, Hassan Boukar, vous voulez ajouter quelque chose?
Nous sommes pratiquement. Moi, je veux dire, par exemple, la collaboration entre l'armée française et l'armée américaine, oui, c'est vrai, c'est une réalité. Lorsque les Américains ont dit qu'ils vont réduire justement leur présence au Sahel, y compris mettre fin à cette base d'Agadez, quand même, les premiers à réagir, ce sont les Français. La ministre française de la Défense est allée jusqu'aux États-Unis plaider une présence plus importante des Américains parce que. Les Français sont dépendants justement de l'appui des renseignements américains pour leur action. Maintenant, en ce qui concerne là pour notre pays, je considère que le rôle de l'Assemblée est quand même un rôle extrêmement important. Pour moi, ce n'est pas un détail, hein, c'est vraiment un rôle extrêmement important. Lorsqu'il y a une décision aussi importante qui est là pour la durée, aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire pendant combien de temps les Américains ou les Français sont là. Personne n'est capable de dire. Donc pour moi,
Hassan Boukar, nous sommes à la fin.
Oui, un débat à l'Assemblée. On aurait pu avoir ce débat à l'Assemblée. Je pense que ça aurait rassuré les Nigériens.
Est-ce qu'il est trop tard ou on peut encore?
Je n'en sais rien, mais en tout cas pour moi, c'est quelque chose qu'on a raté. Il aurait fallu avoir ce débat et c'est ça qui allait rassurer les Nigériens sur le fait qu'on est passé. La plupart de ces pays sont passés par l'Assemblée pour arriver ici. Donc, chez nous, on aurait pu le faire avant que vous donniez des oscillations quand même puissantes, des conséquences.
Merci. Et nous sommes donc à la fin du forum de la presse de ce soir. Et donc, merci à tous, chers invités et chers téléspectateurs et auditeurs du forum de la presse. Rendez-vous est pris donc samedi et dimanche pour l'actu des jeunes, suivi de tout ça à la FADA. Et après, à partir de 18h15, vous pouvez suivre le forum samedi, le forum à Hausa sur le thème « Mesures d'atténuation de l'impact du Covid-19 chez les petites et moyennes entreprises ». Et dimanche, le forum en Zarma sur le thème « Mesures de prévention de le Covid-19 à l'université Abd Moumouni de Niamey ». Merci à tous. Nous étions en compagnie de Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Hussein Issa, journaliste indépendant. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou. La régie technique a été assurée par Hussein Issa. Réalisation vidéo assurée par Mustapha Ayouba. Bonsoir.